Ça vous dit d'aller boire un verre?
Non, on écoute, vous êtes libre ce soir.
Bonjour, vous êtes bien sûr, vous êtes libre ce soir, donc l'émission de la culture libre, avec toujours Pierre et Emmanuel au rendez-vous. De quoi va-t-on parler aujourd'hui? On va parler de réseau, d'internet et de liberté un peu sur ce réseau. En parlant d'un personnage assez charismatique de l'internet français qui s'appelle Benjamin Bayard.
On va dire qu'il signale aussi par son franc-parler, parfois son langage très familier, et puis sa barbe et son habillement qui en font un personnage un petit peu folklorique visuellement, mais et n'empêche que c'est quelqu'un qui a des idées. Oui, en effet, c'est un militant de la neutralité du net. À la base, c'est un ingénieur réseau qui a travaillé chez les plus grands opérateurs internet français et qui en a acquis un certain recul et une certaine vision politique sur ce qu'est internet. C'est ce qui l'amène à être assez largement connu sur des questions de neutralité du net. Par exemple, quand on parlait de loi Adopi de l'OPSI, on le voyait souvent montant au créneau et être interrogé par des journalistes. Et faut dire qu'en même temps, il est président d'une association qui est en même temps fournisseur d'accès à Internet, qu'on appelle FDN ou French Data Network.
Voilà, donc c'est une association classique, loi 1901, qui a été fondée en 1992, et donc dès le début de sa fondation, son objectif c'était de fournir Internet à ses utilisateurs, donc dans le respect de leur éthique, et surtout en faisant participer les utilisateurs, c'est-à-dire que quand on est abonné à FDN, on est censé aussi participer et mettre la main dans le cambouis un peu pour participer et faire évoluer Internet activement, sans être un utilisateur passif qui ne sait pas comment ça marche et qui reçoit une box dans son salon et ça marche tout seul.
Ouais. Et d'ailleurs, ce monsieur-là peut aussi vous expliquer comment monter votre propre opérateur Internet dans votre coin et ça marche assez bien. Bon, finalement, c'est pas un truc extrêmement compliqué. Mais justement, l'objectif de FDN, c'est qu'on se met tous ensemble, on bricole et on a notre Internet.
Ouais, faire quelque chose de collectif.
Et rappelons-le, FDN, c'est le plus ancien opérateur Internet encore en activité à l'époque où France Télécom croyait toujours au Minitel.
Ouais, ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'à cette époque, 1992, il y avait peu de fournisseurs d'accès que ça intéressait. Ils se disaient ça va pas marcher, enfin c'est la mode mais ça va disparaître. Et donc la plupart des fournisseurs d'accès étaient des associations comme FDN et qui maintenant sont pour la plupart mortes. Donc FDN c'est un peu le rescapé avec ses 200 adhérents.
Ouais, et à l'époque il y avait même pas de web, faut-il le préciser.
Alors, ce Benjamin Bayard, il a fait énormément de conférences, et on va en profiter pour vous passer quelques extraits. C'est un extrait qui parle de la neutralité du net, et qui fait l'analogie avec la poste.
Donc qu'est-ce que c'est que ça, la neutralité du réseau, et comment je vais pouvoir vous l'expliquer en essayant de ne pas parler technique? Le premier point, c'est que le message peut poser problème, pas le messager. On ne condamne pas le messager pour le message qu'il transporte. Ça se sait à peu près depuis les épisodes de Marathon. Ça fait quelques siècles tout de même, c'est la Grèce antique. Ça ne se fait pas de condamner le messager pour le message. L'autre façon de le dire, ce que c'est que la neutralité du réseau, c'est le fait que la poste n'ouvre pas les lettres. Je vous la refais différemment. J'ai pas le droit d'utiliser le pli postal pour certains usages. Par exemple, pour envoyer de la cocaïne à mes amis qui en ont besoin. Ou pour que mes amis qui en ont, alors que moi je n'en ai pas, puissent m'en envoyer. J'ai beaucoup d'amis en Colombie. La poste n'ouvre pas les lettres, y compris si elles contiennent de la cocaïne. La poste n'en a pas le droit. L'autorité qui a le droit de faire ça, c'est pas la poste, c'est les douanes. Surtout que la Poste, une fois privatisée, ce serait encore plus embêtant. Ce serait un organisme privé qui serait chargé de faire appliquer la loi en ouvrant le courrier des gens. On imagine très mal le merdier. Il se trouve que sur Internet, il n'y a que de l'opérateur privé. Ça, ce sont des points de comparaison qui sont utiles pour comprendre ce qu'on appelle neutralité du réseau. La question clé, en fait, sur la neutralité du réseau, c'est que, quel que soit ce qu'on veut faire, ce ne soit pas le réseau qui le fasse.
Donc là, on a entendu Benjamin Bayard nous donner une définition de la neutralité du net, qui est que...
Enfin, c'est un des éléments de la neutralité du net, c'est de dire que Internet, c'est un réseau qui fait passer du trafic, mais qui n'a pas à dire ce trafic-là est autorisé, ce trafic-là n'est pas autorisé, donc automatiquement je le coupe. S'il doit y avoir des contrôles, ça doit être fait par des autorités de police compétentes, et non pas par des fournisseurs d'accès, parce que le gouvernement leur a dit que si c'était un fichier MP3 illégal, il ne fallait pas le passer ou toute autre chose.
Disons qu'à la base, Internet n'a pas été conçu dans un but de centralisation ni de contrôle des gens par les gouvernements ou par des entreprises, mais il s'agissait d'une infrastructure de communication qui serait fiable et qui marcherait bien, et où simplement le matériel réseau ne ferait que commuter, c'est-à-dire diriger les messages au bon endroit, tout comme la Poste. Se contente d'expédier votre courrier sans y regarder.
Voilà, c'est ça. Alors, il y a un second extrait qui va dans le même principe. Qui parle du comportement que doivent avoir les fournisseurs d'accès à peu près, et qui parle aussi de neutralité du net, et qui explique que les fournisseurs d'accès ne doivent pas pouvoir faire n'importe quoi, sinon ce serait la pagaille sur Internet.
Mais sans avoir besoin d'être dans le monde des Monty Python, il faut savoir que chez les opérateurs, les gens qui vendent des services sont regardés comme la poule aux œufs d'or. J'ai travaillé chez tous les gros opérateurs de France, et je peux vous dire que quand mon patron voyait qu'on faisait du BTP, du génie civil, qu'on configurait des merdiers de routeurs, qu'on tirait des centaines de kilomètres de fibre optique, qu'on payait des ingénieurs une demi-fortune pour au final vendre un merdier 30 euros par mois à un abonné, et qu'à côté de ça, Mythique vendait le même prix, 3 enregistrements dans une base de données, ils étaient sur le cul. Et les abonnés de Mythique, ravis, qui gueulent jamais, je ne sais pas si vous avez déjà lu quelque chose contre Mythique dans UFC Que Choisir, moi jamais, par contre, contre les opérateurs Internet, tout le temps. Je peux vous dire, il y a un petit côté, nous on fait du vrai travail pour 30 euros, eux là-bas ils se tirent sur la nouille pour 30 euros aussi, bon business. Comme ils ne se sentent pas capables, enfin ils essayent de fournir les mêmes services, ils n'y arrivent pas. Comme ils n'arrivent pas à les fournir, ils se disent, je vais faire très simple, je vais taxer. Curieusement, chez moi, Mythique, ça marche mieux quand on a pris le pack Mythique avec une option Mythique, 2 euros. Le problème, c'est que ça se voit, les clients voient bien que leur service habituel ne marche pas, donc ils vont ailleurs. Alors on fait différemment. On va voir Mythique, on lui dit, dis donc, sur mes 12 millions d'abonnés, il y en a tant de millions de célibataires vu qu'ils sont abonnés chez toi. Curieusement, tu vois, le lien entre ton réseau et mon réseau, il n'est pas encore en panne. Je suis sûr que tu es d'avis qu'il faudrait qu'il le reste. Pas encore en panne. Moi, j'aimerais bien que tu prennes les frais d'entretien du lien à ta charge. Hein? Oui, très cher. Très fragile comme lien. Il faut l'entretenir beaucoup. À votre avis, Mythique, il paye ou pas? 20% de son chiffre d'affaires qui est remis en jeu. Évidemment qu'il paye, si le montant est raisonnable.
Ça, c'est une tentation.
Or, faire tomber exprès le lien en panne parce que le gars à l'autre bout n'a pas voulu payer, c'est nuire à la neutralité du réseau.
Là, Benjamin Bayard a mis en lumière un danger, par exemple, Free qui a fait payer Dailymotion, parce que ça lui coûtait cher de faire passer les vidéos de Dailymotion à ses chers abonnés, et donc fallait contribuer à ça. Et puis ce qui se passe aussi récemment, c'est un petit peu comme ce qui se fait avec la télévision. C'est-à-dire que les fournisseurs d'accès à Internet se rapprochent des diffuseurs de contenu, qui sont en même temps les propriétaires des séries, des disques. Par exemple, SFR, je crois que c'est dans le même groupe que Vivendi Universal, me semble-t-il. Et après, il y a toute une collusion pour dire « mon service d'abonnement Internet va très bien marcher avec la boutique machin ».
Voilà, le gros risque, en fait, c'est de voir un Internet spécialisé. C'est-à-dire que chez tel fournisseur d'accès, on a accès à tel service, et que chez tel autre fournisseur d'accès qui n'a pas négocié pareillement avec le service, on n'ait plus accès à ce service. Et si on fait ça, il va y avoir un Internet différent pour chacun. Par exemple, moi, si j'étais chez Orange, j'aurais accès à Orange TV, enfin, je sais pas si ça existe, je dis ça au pif, j'aurais accès à Orange TV, mais quelqu'un qui est pas chez Orange, j'aurais pas accès à ce service. Et à partir de là, on morcelle Internet et on le détruit parce qu'en fait, on le transforme en une sorte de Minitel. Alors, le Minitel, c'est l'expression de Benjamin Bayard pour dire qu'on est dépendant de services localisés sur un serveur et que l'Internet n'est plus
le même pour tous.
Alors, on va se faire un dernier petit extrait pour finir, un très sympathique, qui est qui ne parle plus directement de neutralité du net, mais plutôt de liberté d'expression qui est apportée par Internet.
Celle-là aussi, je l'aime beaucoup. Rendez-vous compte, sur Internet, n'importe qui peut dire n'importe quoi. Je ne sais plus qui l'a beuglé pendant le débat sur Adopi, moi j'étais dans les tribunes.
Et c'était un député.
C'était à l'Assemblée nationale, il devait être 22h, donc on va dire que c'est parce qu'il était fatigué. Effectivement, lui, il trouve ça scandaleux que n'importe qui puisse dire n'importe quoi. Moi, ça me rappelle furieusement l'article 11. Donc effectivement, je suis bien d'accord avec lui. Rendez-vous compte, sur Internet, l'article 11 de la Constitution de 1789 est enfin, 200 ans après, applicable. C'est intéressant comme effet.
Lui, il trouvait que c'était un problème. Moi, je trouvais que c'était une solution. Nos avis divergent.
Donc, finalement, nos questions de neutralité du net, de savoir qu'est-ce que les opérateurs font dans notre dos, c'est pas tellement une question d'informaticien ni d'expert en télécom. C'est une question de liberté d'expression. Parce qu'on a la chance, avec Internet, d'avoir un média où n'importe qui peut dire n'importe quoi au monde entier. Et donc, c'est pas comme la radio ou la télévision où là, faut être journaliste, faut être à une fonction qui vous donne droit à la parole publique. Là, on a encore la chance de pouvoir dire ce qu'on veut au monde et se diffuser très facilement.
Voilà, alors, donc quand il fait référence à un article 11, c'est l'article 11 des droits de l'homme et du citoyen, dont il avait parlé précédemment dans cette conférence. Donc bien sûr, c'est assez fort. Et surtout, attends, j'avais une bonne idée là. Et en particulier plus tard dans la conférence, donc vous pourrez la retrouver, on vous donnera un lien sur notre site internet, www.velcs au passage, .info. Et il parle de l'importance qu'a eu Internet lors du vote pour la Constitution européenne, donc qui avait finalement vu le non l'emporter. Et ce qu'il explique, indépendamment de ses opinions politiques, c'est que 95% des hommes politiques étaient favorables au oui, 90% des médias l'étaient également, et qu'il était très peu possible d'avoir un débat équilibré dans les médias traditionnels et que c'était sur Internet qu'on avait pu entendre des avis divergents, qu'il y avait des gens qui avaient donné leur opinion en les argumentant, et que Internet avait eu ce rôle de renouveau de discussion politique qui n'avait pas été pris par les médias traditionnels et que là, Internet avait joué un rôle tout à fait intéressant.
Oui, et ce qui gêne aussi les médias, c'est que toutes ces nouvelles formes de communication qui leur échappent un peu, qu'ils n'ont pas su non plus maîtriser parce que c'est pas des choses qu'on peut centraliser et exploiter aussi facilement, eh bien, ça leur fait une concurrence assez terrible. Ce qui fait que en général, ces entreprises ont une tendance à vouloir discréditer Internet en l'assimilant souvent aux rumeurs qui s'y transportent. Vous vous rendez compte, il y a des gens qui diffament machin et bidule.
Ce n'est jamais nos hommes politiques qui
voilà,
feraient ça.
Voilà. Non.
Alors, pour terminer, donc, les extraits audio qu'on vous a fait entendre, ils viennent d'une conférence de Benjamin Bayard, donc, qui s'intitule « Qui cherche à contrôler Internet ?». Vous pouvez la retrouver sur Internet. Comme je l'ai dit, on vous donnera le lien sur notre site.
Et Benjamin Bayard est aussi connu pour avoir popularisé l'expression de Minitel 2.0. D'ailleurs, on vous donnera aussi le lien sur une conférence... Internet libre au Minitel 2.0 où là il a interpellé des gens à propos de l'importance de la liberté d'Internet.
Donc vous allez avoir de quoi vous occuper et on espère vous retrouver la semaine prochaine pour une prochaine émission. Au revoir.
Au revoir.